Vous recherchez une formation vraiment enrichissante? Les Compagnons du Tour de France vous invitent à leur journée portes ouvertes. Avec des formateurs passionnés et des centres dans toute la France, les Compagnons du Tour de France vous proposent des parcours d'excellence dans les métiers d'art et du bâtiment pour les jeunes dès 14 ans et des formations professionnelles pour les adultes. Pour connaître toutes les dates des portes ouvertes près de chez vous, rendez-vous sur compagnonsdutourdefrance.org. Les Compagnons du Tour de France, la transmission des savoir-faire. Vous écoutez
RMC. RMC, Apolline Matin.
Le journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Comment la rue va-t-elle répondre à Emmanuel Macron? Il y a la crainte d'une radicalisation. Les autorités, mais aussi les syndicats le disent ce matin, dispositif de sécurité inédit. C'est la 9e journée de mobilisation qui démarre, journée spéciale sur RMC. La police a déjà délogé ce matin des manifestants dans un dépôt de bus de Pantin près de Paris. RMC est sur place. Et puis la stupéfaction à Lille où un lycéen est mort pendant les épreuves du bac. C'était avant-hier et ses amis témoignent ce matin. Sur RMC.
Et puis la journée de tous les dangers, vous en parliez, dans la rue, on y reviendra juste après ce journal avec le témoin du jour, il est syndicaliste policier. Ce matin, les autorités, mais aussi les syndicats, redoutent une radicalisation du mouvement.
Oui, parce que ça y est, le 49-3 a été dégainé, les motions de censure rejetées, le président Emmanuel Macron a parlé, les opposants sont dans la rue tous les soirs depuis une semaine. Maintenant, 12 000 policiers et gendarmes déployés partout en France. C'est un dispositif de sécurité inédit. Pourquoi ? Parce qu'il y a la crainte de la part des autorités, mais aussi des syndicats, que ça dégénère, hein, Victor Joannin.
Aujourd'hui, dans les cortèges, les services d'ordre des syndicats seront particulièrement aux aguets. À Paris, la CFDT fera venir plus de militants pour assurer sa sécurité et sera en lien permanent avec la préfecture pour signaler toute intrusion de casseurs. Mais des syndicalistes aussi pourraient aller à l'affrontement. Les gars nous disent qu'ils en ont marre du blabla et les images des violences policières tournent beaucoup, constate un cheminot. On est encore plus vigilant que d'habitude, confirme le numéro 1 d'une confédération qui appelle tout de même ses troupes à manifester car les incidents ont généralement lieu en marge du cortège. Mais qui s'attend à ce que des familles et des personnes âgées aient peur de défiler. Un haut responsable renvoie la faute à l'exécutif. Le terreau de la violence, c'est eux. On est super raisonnable depuis le début, mais le président est autiste et la colère gronde. Des responsables syndicaux qui espèrent tous qu'il n'y aura pas de casse, et s'il y en a, qu'elle ne masquera pas l'ampleur de la mobilisation.
Alors, à préciser quand même que la soirée a été moins tendue que les précédentes dans les grandes villes, malgré les rassemblements, encore des manifestations spontanées à Paris, à Lyon et Marseille notamment. Alors, on va prendre la température une première fois ce matin avec Martin Bourdin. Martin, en direct pour RMC. Vous êtes à Pantin, c'est au nord-est de Paris, dans un dépôt de bus où la police intervient déjà donc pour empêcher des actions qui étaient prévues ce matin.
Exactement, Quentin. Ils sont une soixantaine de manifestants réunis ici depuis 5h30 pour bloquer un dépôt de bus. Et en face d'eux, une trentaine de policiers, certains casqués, qui leur font face. Pour le moment, tout se passe dans le calme, dans la discussion. Mais cette présence policière, eh bien, elle surprend les manifestants. Ils n'avaient jamais vu autant de membres des forces de l'ordre lors des deux précédents blocages de ce dépôt. Les manifestants, qui sont des salariés de la RATP, mais aussi des profs, des agents territoriaux, voulaient notamment bloquer la route, la Nationale 2, qui permet de rejoindre la Villette depuis le nord de Paris. Les policiers leur ont demandé de revenir sur le trottoir au bout de 5 minutes, mais cette route, elle a en revanche été longtemps bloquée par une voiture de police. Les voitures peuvent à nouveau circuler depuis quelques instants sur cette Nationale 2. La police qui tente aussi de négocier que le blocage du dépôt se transforme en filtrage. Depuis 5h30 ce matin, seulement 3 bus sont sortis de ce dépôt de bus.
Alors, le climat a l'air de se tendre ce matin. On va vivre ça heure par heure. On va suivre ça heure par heure sur RMC en cette nouvelle journée spéciale au lendemain de l'interview d'Emmanuel Macron, qui ne recule pas, donc qui fustige même les syndicats, les violences, les factieux, c'est le mot qu'il emploie en faisant le parallèle avec l'assaut du Capitole aux États-Unis. Sébastien Krebs du service politique à RMC. Le président assume encore ce matin l'impopularité de sa réforme.
Oui, il y a des moments difficiles qu'il faut assumer. Voilà ce qu'écrit le chef de l'État sur Twitter, message posté hier soir. J'aime notre pays, écrit Emmanuel Macron. Voilà pourquoi je suis à l'œuvre pour faire ce que nous devons faire. Hier à 13h, il parlait déjà de nécessité, de sens des responsabilités, avec pour unique regret de ne pas avoir réussi à convaincre. Dommage qu'il n'ait pas parlé plus tôt, réagissait hier soir un élu de la majorité. Un président qui souffle le chaud et le froid, qui promet d'entendre les colères, mais tout en restant inflexible, qui attaque les syndicats, mais qui leur propose de revenir à la table. Ce matin sur RMC, Dominique Corona de l'UNSA se dit très en colère et parle de point de rupture. Il va falloir un geste d'apaisement avec les partenaires sociaux, plaide un député.
Alors il y a un symbole, Sébastien, Emmanuel Macron doit dîner avec le roi Charles III, le nouveau roi, lundi prochain à Versailles. Finalement, les plans plans vont peut-être changer.
Oui, information de confrères de BFM TV, les autorités envisagent de déplacer le dîner peut-être à l'Élysée, disons de façon plus classique. Vous voyez, le plan initial, c'était un fastueux banquet dans la galerie des glaces avec une table de 50 mètres. C'est le symbole qui inquiète. Voyez l'image quelque peu hors sol que ça pourrait donner des deux chefs d'État sous les dorures de Versailles dans un cadre très royal, alors que la colère continue dans la rue.
Emmanuel Macron vous a-t-il convaincu hier soir dans son interview? La réponse est non pour près de 7 Français sur 10, d'après le dernier sondage Elab pour BFM TV. Et la preuve, tiens, écoutez ce matin avec Mao Becker-Granier pour RMC à Rennes, où une manifestation de pêcheurs hier a tourné aux affrontements.
Touché en son fort intérieur par les mots qu'elle juge honnêtes du président.
Je l'ai entendu.
Marie-Sophie a été convaincue par l'insistance d'Emmanuel Macron sur la nécessité de cette réforme.
Je ne pense pas qu'un président soit heureux d'imposer une réforme aussi impopulaire. Avons-nous le choix?
Mais Marie-Sophie fait plutôt figure d'exception dans les rues rennaises où les stigmates des manifestations de la veille sont encore visibles. Hélène, elle n'a pas apprécié l'argument fataliste.
Il y a plein aujourd'hui d'économistes qui ont prouvé effectivement le contraire sur le fait qu'elle n'était pas forcément nécessaire, en tout cas pas par ce biais-là.
Vincent lui a trouvé le ton extrêmement méprisant avec les manifestants.
Il reste buté, il en a rien à foutre des revendications des gens dans la rue.
La rue Siobhan y est descendue 6 fois pour montrer sa colère, parfois en manifestation sauvage, alors être pointé du doigt comme des factions ou des factieux, très peu pour elle.
La violence, elle est légitime quand c'est celle de l'État et quand c'est la nôtre, ils ne l'acceptent pas. C'est des factions et c'est les limites des milices.
Plus remotivée que jamais après les propos indécents à ses yeux du président, Siobhan sera à 11h place de Bretagne pour à nouveau fouler le pavé.
Voilà, 11h à Rennes, la manifestation pareille à Lyon. Ce sera plutôt 10h à Nice et Avignon, 10h30 à Marseille et Montpellier. Midi à Bordeaux, 14h à Paris, entre Bastille et Opéra cette fois. Hier soir, c'est devant la raffinerie de Gonfreville en Normandie, devant la plus grande de France, hein, qu'il y avait un rassemblement après l'annonce de réquisition du personnel gréviste, comme en début de semaine à Fos-sur-Mer dans la région marseillaise. La galère, tiens, c'est à signaler, est plus marquée ce matin dans les transports avec un TGV sur deux, un tiers des TER, peu de métro à Marseille, aucun tramway à Nice, au mieux un RER sur deux et un RER et un métro et un RER sur deux à Paris en banlieue. Cette voyageuse, tiens, écoutez comment ça se lassait ce matin à la gare de Chelles, en région parisienne.
Il y a un train presque toutes les heures, donc c'est galère, c'est fatigant. Maintenant, on prend l'habitude, quoi, mais c'est très saoulant. Ouais. C'est bien de faire grève, mais c'est vrai que la grève là, ça dure là. Franchement, moi, ça me commence à vraiment me saouler, les transports, qui est tout le temps une galère. Le problème, c'est que je suis entre les deux, je les soutiens, mais en même temps, c'est casse-pied.
Voilà, RMC à vos côtés toute la journée. Et vous nous signalez ce matin au 32-16 la réouverture partielle sur une voie de chaque côté du pont de Saint-Nazaire, pont qui était fermé depuis hier, depuis les dégradations lors d'une manifestation. À 7h07 sur RMC, je vous le disais, c'est la stupéfaction à Lille, où un lycéen de 19 ans qui passait le bac est mort d'un malaise cardiaque. Ça s'est passé avant-hier lors des épreuves anticipées du baccalauréat. Ce lycéen était en train de composer quand il s'est effondré et Marion Gauthier a retrouvé pour RMC certains des 80 lycéens qui étaient dans la salle au moment du drame.
Il répète son incompréhension. L'ami endeuillé raconte d'une voix blanche les sujets distribués, l'émargement.
J'entends mon ami suffoqué, quoi, qui a plus de respiration.
Léo le rattrape avant sa chute et appelle à l'aide.
Je savais pas qu'il était en train de mourir, mais je le sentais, quoi. Ses yeux, ses mains qui deviennent violettes, sa tête. Je regardais mon ami et j'essayais de faire quelque chose, de le réveiller en disant son prénom, en criant. Moi-même, j'ai dû dire à plusieurs reprises d'appeler les pompiers.
Qui finissent par arriver. Les élèves sont alors emmenés dans une seconde salle, invités à continuer leur épreuve, dit-il.
Je pouvais pas voir mon copain mourir et en même temps écrire ou bien réfléchir.
De la colère, Léo dénonce, comme d'autres camarades, un manque de réactivité des surveillants. Le rectorat assure que les secours ont été contactés directement. Rectorat qui repousse l'épreuve.
On a vraiment pas la tête à réviser, là, je pense.
Mathieu a juste entendu son ami tombé derrière lui, puis le chaos.
Je culpabilise un petit peu parce que je me dis que même à mon échelle, j'aurais pu faire quelque chose. On n'arrive pas vraiment à réaliser qu'on ne pourra plus le revoir.
Tous deux se préparent pourtant à retourner en cours pour le disparu parce qu'il voulait son bac. Salut Léo, je le décrocherai aussi.
Tiens, et puis je vous présente l'homme le plus rapide du monde, le skieur français Simon Billy, qui vient de battre qui vient de battre le record du monde de vitesse à ski. 255 km/h quand même pour ce monsieur qui vient de battre ce record sur la piste de Vars dans les Hautes-Alpes. 7 ans que ce record n'avait pas été battu. C'est une histoire de famille puisque son papa avait déjà été le skieur le plus rapide du monde à la fin des années 80.
255 km/h.
Oui, comme Charles Magnan le matin quand il est en retard à RMC.
Et en fait, il avait un défi paternel à relever, quoi.
C'est ça.
J'adore, je ferais mieux que papa.
Son papa avait le record, un Italien l'avait battu et lui l'a repris il y a quelques années. Et là, il vient d'améliorer.
Vive la famille.